Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, je vous invite aujourd'hui à découvrir une femme exceptionnelle, méconnue d'ailleurs, Ide de Boulogne, que nous allons retrouver presque vivante à ce micro grâce aux recherches de Jean-Pierre Diques, président de la Société académique du Boulonnais et membre de la Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais. Jean-Pierre Diques, bonjour.
Bonjour.
Je devrais d'ailleurs dire docteur Diques,
oui,
car vous êtes docteur en médecine, voilà. Mais vous avez tant écrit et publié tant d'ouvrages sur votre région qu'on est en droit de considérer que vous êtes aussi écrivain.
Oui, tout à fait.
J'ai peur même que votre
écrivain
régionaliste. Mais en tout cas, votre ouvrage qui vient de sortir, Sainte Ide de Boulogne, publié aux éditions de Paris, a été remarqué par les académiciens. Et c'est de cet ouvrage que nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes passionnément attaché à votre Boulonnais natal. Où se trouvent les frontières du Boulonnais?
Alors, le Boulonnais est une région particulière qui correspond d'ailleurs à sa géologie. C'est ce qu'on appelle une boutonnière. Et historiquement, sociologiquement, c'est une région qui est complètement différente des autres, qui se trouve à la limite de la France, de la Flandre, pardon, de la Picardie et de l'Artois. Et elle a toujours été une région particulière avec ses contes et son histoire tout à fait particulière aussi.
Alors, je suppose que sa capitale, si l'on peut dire,
alors,
c'est
la
Boulogne,
capitale, c'est
donc
Boulogne,
très proche de l'Angleterre.
C'est tout à fait proche de l'Angleterre et c'est une des raisons pour laquelle ça a sa singularité, à cause précisément des contacts qui existaient régulièrement par Boulogne avec l'Angleterre, mais c'est le lieu de passage de toutes les invasions, Jules César, Napoléon, ce sont ces grands événements qui sont passés à partir de Boulogne et non pas à partir de Calais tout proche ou Dunkerque ou Abbeville.
Donc Boulogne, c'est ce grand port, cette grande ville.
C'est le premier port de pêche.
De toute l'Europe,
oui.
Mais voilà, il faut le rappeler, peut aussi s'honorer d'avoir une sainte qui porte son nom, sainte Ide de Boulogne.
Ide de Boulogne, oui. Ou Ida
Boulogne
aussi.
Ou Ida, oui. Ou Ite, même, j'ai vu dans
voilà,
votre livre
qu'on
pouvait changer son prénom. Donc, votre ouvrage publié aux éditions de Paris, je vais rappeler l'adresse des éditions de Paris qui ne sont pas forcément un très grand éditeur, comme on a l'habitude ici, 13 rue Saint-Honoré, 78 000 Versailles. Alors, cet ouvrage, évidemment, dès qu'on en ouvre la page de titre, on voit Sainte Ide de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. Alors tout de suite, ça va mieux. On s'est dit qu'on la repère.
Voilà,
quel repère
l'histoire
chronologique pour la situer?
Eh bien, évidemment, elle est née en 1050. Nous sommes juste avant la grande période des croisades, de la première croisade. Alors elle se trouve à la jonction des grands événements de son époque, mais ça n'est pas un personnage qui est secondaire, car elle se trouve au milieu d'un grand nombre de grandes familles. Par exemple, son mari, qui est le comte de Boulogne, a lui-même un frère qui est archevêque de Paris. Son oncle, à elle, a été pape sous le nom de Étienne IX.
C'est bien d'avoir un oncle pape, même
oui,
si
c'est
pas
ça.
Tout le monde.
Il n'a pas régné très longtemps, mais ça a été un pape très important.
Un pape français, alors c'est rare, je crois, dans l'histoire.
Oui, c'était un lotharingien. C'était à la limite. Hein. Et bien sûr, elle est à l'origine d'un certain nombre de grandes lignées. Son dernier fils est probablement à l'origine de la lignée du Portugal. Bien sûr, ses deux fils ont été rois de Jérusalem. Une de ses filles va se marier avec l'empereur d'Allemagne, Henri IV. Vous voyez, donc, on a un tissu très important. Quant à son fils aîné qui redeviendra comte de Boulogne, sa fille montera sur le trône d'Angleterre et deviendra reine d'Angleterre.
C'est bien pour un écrivain, tout de même, d'avoir affaire à des gens comme cela, ça facilite l'écriture.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les personnages.
Ben, naturellement, chacun pourrait faire l'objet d'un livre, bien sûr. Oui.
Alors, pour être un tout petit peu plus précis, Jean-Pierre Diques, qui est le roi de France à l'époque d'Ide de Boulogne?
Alors, le roi de France est celui qui aura régné le plus longtemps, c'est le roi Philippe Ier, qui gardera pour l'histoire une image extrêmement négative, car lui-même de son vivant demandera à ne pas être enterré à la nécropole des rois de France. Hein. Il sera enterré à Saint-Benoît-sur-le-Loir, ce qui lui évitera d'ailleurs d'être exhumé pendant la Révolution française.
En effet, donc le roi de France Philippe Ier, le roi d'Angleterre.
Alors le roi d'Angleterre, donc c'est bon, il y a.
On se bat pour la couronne. Je
oui, on se bat pour la couronne. Donc c'est essentiellement le fameux Guillaume le Conquérant qui en 1066 prend le trône d'Angleterre sur le Saxon Harold. Et c'est donc lui le personnage important de cette époque. Et le comte de Boulogne, c'est-à-dire le mari de Hyde, va se mettre à son service. Notamment, et il aura un rôle fondamental lors de la bataille de Hastings, car le comte de Boulogne va ferrailler pour dégager le Guillaume le Conquérant, qui à un moment, ou plus exactement par deux fois, va crouler sous le nombre des assaillants. Donc il lui sauve la vie, et Guillaume le Conquérant lui en aura toujours une grande reconnaissance. Mais Guillaume le Conquérant était un personnage très curieux, qui était pris de crise de folie, et il mourra assez rapidement, et au moment des croisades, c'est son fils qui s'appelle Guillaume le Roux qui lui succédera. Donc c'est le deuxième roi d'Angleterre. Quant au troisième, c'est Beauclerc.
On change
Henri Beauclerc, voilà. On change de génération. C'est lui qui se mariera avec la petite fille de Hyde de Boulogne. Vous voyez, alors, il y a beaucoup de personnages.
Si, voilà, si je vous ai bien lu aussi, Jean-Pierre Diquez, donc dans votre ouvrage Hyde de Boulogne, c'est tout ce que vous venez de raconter, vaudra à Hyde de Boulogne de figurer sur la tapisserie de la reine Mathilde, celle de Bayeux, n'est-ce pas ?
Oui, c'est pas elle-même, c'est son mari. Voilà. Sur la tapisserie de Bayeux, d'ailleurs, le Mour pose une question très intéressante, à savoir qui a fait cette tapisserie de Bayeux. On dit toujours la reine Mathilde, c'est-à-dire la femme de Guillaume le Conquérant, mais on est un peu pris par les événements, parce qu'elle n'a pas eu le temps chronologiquement de faire une broderie comme ça de 34 mètres. Ça semble assez étonnant, et certains auteurs se sont posé la question de savoir si c'était pas Mathilde, la petite fille de Hyde, qui avait réalisé une partie de cette tapisserie.
Ou alors on dit elle fit la tapisserie comme on dit César fit la guerre, c'est-à-dire elle l'a fait faire avec des petites mains
César quand même fait shit, oui c'est ça, voilà. Alors quelle est la question que vous aviez posée?
Alors la question maintenant que je vous pose, donc on a vu le roi de France Philippe Ier, les rois d'Angleterre de l'époque de Hyde de Boulogne,
oui,
et puis il nous manque l'empereur
alors,
de Germanie.
Il y a plusieurs personnages qui sont très importants, c'est le comte de Flandre, qui est le suzerain du comte de Boulogne, qui participera aussi à la première croisade. On l'appelait l'épée des chrétiens. Et alors ensuite, du côté de au moment de la naissance de Hyde, c'est l'empereur Henri II de Germanie, puis l'empereur Henri III, puis l'empereur Henri IV, qui a été concerné par la fameuse querelle des investitures avec l'affaire de Canossa.
C'est-à-dire il est allé s'agenouiller dans la neige, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire
vous voyez à partir de cette histoire. C'est l'événement important, c'est Étienne IX, le pape Étienne IX, qui était l'oncle de Hyde, qui le premier s'est élevé contre le fait que les papes étaient nommés par les empereurs d'Allemagne depuis Charlemagne.
Ça lui coûtera
la vie parce qu'il sera assassiné à cause de ça. Bon. Et c'est ce pape, chose qui est assez étonnante, qui proposera que le pape soit élu non pas par la Vox Populi italienne ou par les grands souverains, mais par un collège de cardinaux. Un concile. Et on est habitué à cette idée-là. Là, naturellement, voilà. Et c'est donc un personnage, Étienne IX, qui est très très important. Et c'est l'oncle de Hyde.
Alors un mot, parce que j'ai découvert un mot dans votre ouvrage sur Saint-Hyde de Boulogne, j'ai découvert le mot grenon, puisque son mari, on l'appelait Eustache Augrenon.
Du
ça
latin.
Veut dire quoi, grenon?
Alors du latin guernones, qui veut dire moustache. Le mot est utilisé en Picard. J'ai un spécialiste. J'ai fait le plus gros dictionnaire Picard de tout le domaine Picard, et ça veut dire moustache, car il avait de gigantesques moustaches dont il faisait un soin de tout à fait important et particulier, et il est resté sous ce titre-là dans l'histoire.
Alors quand Hyde l'épouse, donc puisque vous avez dit qu'elle était née née en 1040, quand elle épouse Eustache II au Grenon en 1057. Elle a donc 17 ans. Voilà. Et d'ailleurs, votre livre s'ouvre sur ce chapitre, ce cheminement qu'elle va faire donc de son pays natal jusqu'au comté de Boulogne. C'est alors, racontez-nous un tout petit peu le château où elle est née.
Alors, Eustache au Grenon lui-même était veuf de Goda, qui était la sœur du roi d'Angleterre. C'est un personnage donc déjà très important, puisqu'il est marié à la sœur du roi d'Angleterre. Et en revenant une fois de Rome, où il était allé voir son oncle, eh bien, il a l'oncle d'Ide, il passe devant le château de Bouillon. Nous sommes dans les Ardennes, un site absolument superbe. C'est un méandre de la Semois, qui est le fleuve qui passe à cet endroit-là. Ce sont d'immenses forêts, et il tombe, amoureux de cette très belle jeune fille, et il revient à Boulogne, envoie des messagers, et bien sûr, on ne peut pas résister à un personnage de cette importance-là, qui était comte de Boulogne et comte de Lens aussi, et qui avait un passé déjà fort connu et fort apprécié des gens de l'époque. Alors ça ne pose pas de problème, mais la première chose qui frappe Ide quand elle arrive à Boulogne, bien sûr, c'est la fête comme on peut imaginer, c'est l'état de délabrement à la fois des églises et aussi la pauvreté des pêcheurs. Les pêcheurs, dans toute l'histoire de l'humanité, et surtout à Boulogne, ont toujours été pauvres. Et c'est de elle qu'on tient la fameuse maxime en patois boulonnais que vous m'excuserez de vous dire, à chacun saint pain et snérin. Ce qui veut dire à chacun son pain et son hareng.
Son hareng,
nourriture quotidienne des boulonnais que l'on sale, etc. Bon. Alors, c'est une femme qui va être une mère de famille extraordinaire. Elle va élever ses enfants le plus possible. Elle va les allaiter aussi. C'est très important à cette époque-là. Et puis, c'est une femme pieuse. Bien que ça soit une femme très belle, on le sait parce que Guillaume de Tyr, qui est l'historien de la première croisade, l'a décrite. C'était une grande blonde. On sait aussi qu'elle était grande par ses reliques, tout simplement. Reliques des eaux énorme. Bon, et c'était une personne qu'on aurait plutôt vue comme un personnage tumultueux de cour, vous voyez. Or, c'est le contraire. C'est un personnage qui s'occupe tout de suite des plus pauvres, des plus malheureux, et dès la fête, elle commence à distribuer les vivres qui sont prévus pour la fête à tous ces mendiants qui espèrent bénéficier de quelques miettes à droite et à gauche. Ça, c'est le personnage tel qu'il restera dans la tête de la plupart des gens, et qui lui vaudront bien sûr d'être portée sur les autels, mère de famille exemplaire, et surtout qui aide les pauvres et les pauvres moines, parce que les moines, contrairement à ce qu'on peut dire, étaient extrêmement pauvres. Alors elle était à la tête, à la suite de divers épisodes, d'une fortune absolument gigantesque. Et quand elle meurt, elle n'a plus sur elle que sa bure de moine. Elle a tout donné.
Elle a donné toutes ses robes, tous ses meubles.
Toutes ses robes et son empire entier. Elle a donné tout son empire entier, notamment pour faire la croisade, pour pouvoir acheter du matériel et des vivres pour faire la croisade. Les points de repère, d'ailleurs, que l'on a essentiellement sur Ide de Boulogne, ce sont les chartes. Et il y en a des dizaines de chartes de dons, de ceci.
Heureusement pour l'historien que vous êtes.
Heureusement, parce que ce sont des points d'appui. On n'est pas au niveau des chansons de gestes. On est au niveau des réalités quotidiennes. Bon, je viens de découvrir une charte, par exemple, je ne l'ai pas citée, en faveur de l'abbaye de Lic, qui est à côté de Boulogne, où elle donne toute une série d'objets, un hôtel, une statue, des ornements, etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses précises sur lesquelles on peut s'appuyer, et on est sûr que c'est ça. On en est sûr, d'autant plus que c'est recopié très savamment par les moines au fur et à mesure. L'essentiel est d'ailleurs en Belgique.
Alors, avec Jean-Pierre Dicaisse, nous évoquons la figure de cette femme exceptionnelle dont il parle avec grande chaleur, c'est Ide de Boulogne. Je vous propose de nous retrouver dans un court instant après la pause musicale.
Thank you.
Nous évoquons avec Jean-Pierre Diques la figure de Ide de Boulogne, Sainte Ide de Boulogne. Et je voudrais maintenant, après avoir situé ce personnage, que vous nous parliez un peu de ses fils, puisque tout de même, elle a eu des fils célèbres. Et puis que vous nous parliez de la sainte. En quoi est-elle sainte? Alors, les fils de oui. Ide de Boulogne et de son mari, Eustache de Augrenon.
Augrenon, voilà. Alors, je crois que le mérite de mon ouvrage, c'est d'avoir souligné deux choses. La première, c'est que le Boulonnais était un carrefour linguistique et que ses fils, à elle, parlaient le tudesque, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais, le picard et le flamand. Ce qui est un moyen très important quand on a des troupes à commander et qu'on n'a pas de haut-parleurs comme à cette époque-là. Ses fils étaient capables de s'adresser à pratiquement tout l'ensemble de la croisade.
Voilà.
Et ça, c'est un atout fantastique. Le deuxième élément que je souligne, qui me semble encore plus important, c'est le rôle déterminant que a eu Ide de Boulogne dans le déclenchement de la croisade après qu'elle ait été prêchée par Urbain dans la région Urbain II dans la région du Puy. Pourquoi? Eh bien, parce que Godefroy de Bouillon, qui était son deuxième, avait été élevé par son oncle, qui était le frère de Ide. Hein. C'était donc le frère qui possédait Bouillon, mais c'était toute la Lotharingie. C'est un territoire énorme qui va jusqu'à Cologne, Aix-la-Chapelle, Maestricht, et qui va jusque pratiquement le Hainaut, la Thiérache, le Brabant, c'est jusqu'à la Scarpe, donc la limite de la Flandre. Et donc cet immense territoire représentait un potentiel humain absolument fantastique.
Et Godefroy en a hérité.
Et alors Godefroy en hérite après que celui-ci soit assassiné. Et il en hérite très très jeune, et à l'âge d'une vingtaine d'années, de 22 ans, et il représente une force effective. Or quand on voit la géopolitique de cette période qui correspond à 1099, si vous voulez, la prise de Jérusalem, dans la période qui se précède, vous avez sur le trône d'Angleterre Guillaume le Roux qui a été excommunié car dit-on il ne craignait personne et Dieu bien peu. Bon, il pillait les monastères et s'était intronisé lui-même et archevêque de Canterbury. Ensuite, Philippe Ier de France était bigame officiellement.
Oui,
il avait mis sa
c'est aussi une cause d'excommunication
qui était
aussi.
Une cause de, il avait laissé cruellement mourir sa femme dans le qui s'appelait Berthe de Frise, donc c'était une hollandaise, hein, et dans le château de Montreuil où il y a toujours la tour de la reine Berthe, là où elle est morte assez rapidement, et il avait enlevé la fille, la femme, qui était une très belle femme, du comte d'Anjou, qui s'appelait Foulque IV, on l'avait donné le réchin, c'est-à-dire le jaloux. Et il l'avait enlevé, il vivait notoirement en concubinage avec lui. Alors il a eu 4 enfants de la première et 4 enfants de la seconde. Elle, c'était une de Montfort, c'est une presse. Alors les de Montfort, bon, ils portaient bien ce nom. Et d'ailleurs, elle tentera de faire assassiner le fils aîné du roi de France, Philippe Ier, pour que ça soit un de ses enfants qui prennent la place.
Vous donc voyez Godefroy, il n'était pas excommunié,
alors,
lui,
Godefroy,
j'espère.
Si,
au moins.
Godefroy venait d'être excommunié parce que il n'avait pas pérenniser l'existence d'un monastère où son grand-père était enterré et où il devait faire dire des messes. Et un jour, il débarquant d'Angleterre, après avoir vu ses propriétés là-bas, va à Bouillon et avec effarement constate que le monastère est en ruine. Elle apprend que Godefroy de Bouillon n'a pas assuré ce service religieux et de devoir de mémoire vis-à-vis de son propre père, et elle entre en colère. Et elle dit, bien écoute, quand tu as été à Rome, tu avais fait vœu de partir pour la croisade,
alors
et
bah,
tu as parti.
Pars.
Voilà.
Bon.
Alors il avait fait vœu parce qu'il était tombé malade, il avait attrapé la peste sous les murailles de Rome quand l'empereur Henri IV avait pris la ville et que le pape Grégoire s'était réfugié dans le château Saint-Ange.
Donc Grégoire, c'est le deuxième.
C'est Grégoire le Grand. Voilà, il s'agit de Grégoire le Grand.
Grégoire le Grand. Voilà. Alors, Godefroy de Bouillon donc va partir à la croisade. Et l'autre et fils, donc, Baudouin. Alors, parce que vous deviez me parler de tous ses fils. Alors, recentrons-nous sur les fils.
Ça, c'est le troisième fils. Baudouin qui suit. Et
en plus, c'est Baudouin de Flandre. Il porte le titre de Baudouin.
Non, c'est Baudouin d'Édesse. Baudouin d'Édesse, roi de Jérusalem. Édesse, c'est la capitale de l'Arménie. Bon, c'est son nom. Il restera avec son nom.
Dans l'histoire.
Quant au premier, il s'appelle Eustache comme son père. Mais c'est extraordinaire parce que ces trois personnages sont un résumé parfait de la croisade, de ce que peut être une croisade. C'est-à-dire que l'aîné, Eustache, il y part par devoir. Il y part par devoir. Godefroy, il va par conviction religieuse. C'est un homme qui est extrêmement pieux et on lui reprochera toute sa vie parce que pendant que les croisés festoyaient, lui était en prière et le rôti arrivait un petit peu froid sur la table quand il se décidait à arrêter ses oraisons.
Et en plus, il était chaste, vous dites, je crois, dans son livre. D'ailleurs, il ne s'est pas marié. Enfin, moi, j'ai découvert un peu le personnage. Je croyais que c'était un guerrier un peu rude.
Pas du tout.
Mais non, c'était un homme très pieux, très...
Pas du tout.
Donc, encore un intérêt de lire votre livre, Jean-Pierre Diquet, Gîte de Boulogne, découvrir Godefroy de Bouillon.
Voilà. Et alors, découvrir Godefroy de Bouillon. Quant au troisième, c'est Baudouin, donc, d'Édesse, qui lui est un personnage ambitieux. Il part pour la croisade pour se tailler des propriétés. Et il devient roi d'Arménie, puis roi de Jérusalem. Donc, il réussit. Et c'est lui qui assoira la conquête de Jérusalem, parfaitement, dans ce sens que c'est un diplomate, qui sait très très bien s'habituer aux circonstances dans lesquelles il est, et il crée des alliances avec les émirs de Tripoli, émirs de Césarée, et il s'en fait des alliés, ce qui lui permet d'être tranquille face à deux blocs gigantesques que sont la Turquie d'un côté, les Seljoukides, et les Fatimides qui eux sont les Égyptiens, et en plus l'émir de Damas. Donc quand on y pense, cette construction artificielle qu'est le royaume franc chrétien de Jérusalem n'aurait pas dû résister une journée. Hein, surtout qu'il y avait très peu de chevaliers, les gens repartaient après la croisade, et c'est Baudouin qui a réussi à faire cet équilibre là qui sera malheureusement dispersé par ses successeurs.
On voit que cette époque vous est extrêmement familière.
Ah, oui,
et alors pendant que ses fils étaient donc en croisade là-bas, ils envoyaient à leur mère Hilde de Boulogne, qui pendant ce temps-là était devenue veuve et continuait à gérer le comté, ils envoyaient des reliques. Vous avez toute une partie de votre ouvrage aussi sur l'importance des reliques, parce qu'à notre époque, on ne comprend plus très bien pourquoi on avait ce culte des reliques. Et vous expliquez ça fort bien.
Oui, alors d'abord, la relique principale concernait un petit morceau du linge qui avait servi à essuyer le Christ quand il avait été descendu de la croix. Et c'était une relique qui donc appartenait à Saint Joseph d'Arimathie et qui avait été qui s'était passée de génération en génération depuis la mort du Christ, et qui était détenue par les chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire les Melkites, les Syriaques, etc. Donc c'était des chrétientés qui étaient installées à Jérusalem et qui, pour remercier les Francs de les avoir délivrés du joug que pouvaient représenter les musulmans, ont donné des reliques, et notamment à Godefroy de Bouillon. Et le frère aîné de Godefroy de Bouillon, Eustache, quand il revient avec un certain nombre de reliques. C'était les plus beaux présents qu'ils pouvaient faire, d'abord parce que leur mère était extrêmement pieuse, ensuite il fallait des reliques pour les fondations religieuses, parce qu'on ne conçoit pas une fondation religieuse ou une église sans une relique. Et ensuite, la relique, c'est elle qui donne le pouvoir spirituel et temporel. On disait des Boulonnais qu'ils n'acceptaient jamais de se mettre à genoux devant quiconque, y compris les princes. Ce qui était extraordinaire pour cette époque-là. Ça méritait, un tel état de fait aurait pu leur mériter d'avoir la tête coupée. Eh bien, devant personne, sauf devant les porteurs de reliques. Là, ils se mettaient à genoux.
Alors, Hilde de Boulogne, justement, c'est une femme, comme vous l'avez déjà souligné, très pieuse, qui a une grande foi. Elle fonde beaucoup d'abbayes.
Oui.
C'est une de ses œuvres, c'est cela.
Oui, alors, elle va fonder la cathédrale de Boulogne. Elle va fonder la cathédrale de Lens, qui sont des cathédrales donc qui étaient de style roman.
Quand vous dites qu'elle va fonder la cathédrale, c'est-à-dire qu'elle va demander au pape d'y installer un évêque. La
cathédrale
pas dans
de Boulogne avait brûlé, donc elle n'existait plus.
Oui. Hein.
Elle bâtit la cathédrale, comme on disait tout à l'heure, hein. Et elle bâtit la cathédrale. Elle bâtit deux cathédrales, celle de Lens et celle de Boulogne, qui n'existaient pas, qui n'existaient pas. Bon. Alors ensuite, le nombre de monastères qu'elle fait édifier est absolument impressionnant, puisqu'il est de l'ordre de 17. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire que, attention, c'est pas 17 dans le Boulonnais, hein, c'est 17 qui vont jusqu'en Allemagne, pratiquement. Mais il y en a un certain nombre dans le Boulonnais, comme l'abbaye du Hoy, la Capelette, Rumilly, etc. Andre, bon. Donc, elle bâtit plutôt dans le Boulonnais, effectivement. Ce sont les églises, et puis ce sont surtout les maladreries. Elle fonde des maladreries, c'est-à-dire des endroits où on soigne les pauvres lépreux, et aussi des hôpitaux. Ça, c'est son devoir principal, et c'est ce qui en fera une sainte.
Ce qui en fera une sainte, alors voilà, oui, parce que la sainteté n'est pas fondée, comme vous le dites aussi, parce que votre livre, Hyde de Boulogne, développe beaucoup cet aspect des critères de la sainteté. Ce ne sont pas les miracles, mais il se trouve qu'elle a fait beaucoup de miracles, la fois de son vivant, enfin des miracles qui sont rapportés en tout cas, et puis après sa mort.
Oui, alors il est évident que ces miracles, c'est assez difficile d'en apprécier
la valeur. Dans la même époque historique.
Surtout, voilà, c'est ça, autant de temps après. Bon. Mais d'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, les saints, ça n'existe pas. Il y a les Beatus, qui sont les bienheureux. Hein. Ça n'est qu'à partir de...
Le 14e, qu'on les a développés.
Le premier saint qui va être officiellement canonisé par Rome, c'est l'empereur Henri II en 1147.
Voilà, mais la procédure telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est plus tardive.
Beaucoup plus tardive. Vous voyez, donc les choses se sont fait lentement et il n'y avait qu'un seul degré, c'est-à-dire il y avait le Beatus qui était le saint. Alors évidemment, il y a un certain nombre de guérisons miraculeuses qui sont imputées à Hyde de Boulogne et à son culte, un petit peu comme on peut voir actuellement avec le pape précédent qui vient de mourir. On dit, moi j'ai été miraculé, etc. C'est comme ça que les choses se passaient.
Donc, Hyde de Boulogne, c'est l'ouvrage de Jean-Pierre Diques, Hyde de Boulogne, sainte Hyde de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. Je vous en recommande la lecture. Il est paru aux éditions de Paris, qui se trouvent à Versailles, contrairement à ce que leur nom indique. Hyde de Boulogne, donc pour découvrir à la fois la comtesse, l'épouse, la mère de fils célèbre roi de Jérusalem, la sainte.
Et les grands événements de l'époque.
Et aussi la continuation de son culte, car les Boulonnais, dont vous chantez les louanges, les Boulonnais ont encore aujourd'hui un grand culte pour Hyde de Boulogne.
Eh bien, ce culte a repris pratiquement au début du XXe siècle, car les reliques avaient été enlevées, elles avaient disparu, elles avaient été dans un premier temps peut-être volées, puis récupérées par la famille de Lorraine, ont transité au moment de la Révolution à Paris, elles sont actuellement à Bayeux, où ce sont les bénédictines qui les ont, mais elle a été, je veux dire, officialisée, c'est-à-dire que il existe ce qu'on appelle un ordinaire. Dans la messe, il y a une fête de Saint-Hyde qui se situe le 13 avril.
13 avril. On aurait dû faire notre émission le 13 avril. Sans doute sera-t-elle diffusée avant.
Peut-être.
Mais grâce à vous, on aura mieux découvert ce personnage tout à fait fascinant.
Encore un dernier mot
aussi, je vous en prie.
Que vous me permettrez de dire, c'est que le nom de Hyda est actuellement le nom qui est le plus donné dans la totalité des pays nordiques et qu'il est un nom extrêmement commun tant en Russie que aussi en Allemagne.
Donc on peut appeler ces petites filles
Hyde
ou Hyda en souvenir de Hyde de Boulogne. Eh bien merci Jean-Pierre Diques et j'espère que vous aurez une autre opportunité de publier un ouvrage car on vous lit avec beaucoup d'intérêt. On apprend beaucoup de choses de cette époque qui pour nous tout de même commence à être un peu lointaine.
Sûrement, oui.
Donc merci infiniment.
Merci, au revoir.
Et Canal Académie était heureuse de vous recevoir.
Merci.